La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundo et Jean-Christophe Brianchon, Boris Pino et Grégoire Difior, et la prise de son est assurée par Bruno Gagnère, la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Anna Sigalevitch, Marie Audrou et Emmanuel Dupuis. À notre affiche, Miranda, d'après Henri Purcell, dirigée par Raphaël Pichon. Mise en scène, Cathy Mitchell, c'est à l'Opéra Comique. Sibelius, œuvre pour piano, un disque du pianiste Leif Ove Andsnes. Et Kindlich, c'est de Philippe Manoury, dirigé par Julien Leroy, mise en scène Nicolas Stemann. C'était au Festival Musica à Strasbourg, ce sera bientôt à l'Opéra Comique. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour voir Démon, mise en scène par Lorraine de Sagazan, librement inspiré de la pièce de Lars Noren. Des places à gagner pour mercredi 4 octobre, c'est à 19h30, au Théâtre Montfort à Paris. Nous ouvrons cette dispute avec Miranda, d'après Henri Purcell, présentée à l'Opéra Comique jusqu'au 5 octobre. Cathy Mitchell en signe la mise en scène, tandis que Raphaël Pichon est donc dans la fosse. Miranda, c'est la fille de Prospero, dans La Tempête, de Shakespeare. Elle est l'unique personnage féminin de la pièce. Henri Purcell lui a composé de très nombreuses musiques de scène, dont plusieurs, d'après Shakespeare. Il a donné ensuite et ainsi quantité de semi-opéras à la fin du XVIIe siècle, avant que l'opéra italien n'éclipse cette part importante de l'œuvre du musicien britannique. Cathy Mitchell a donc souhaité, avec Raphaël Pichon, réutiliser certaines de ses partitions en construisant un spectacle, explique-t-elle, depuis le point de vue de Miranda. Les extraits de la générale, fournis par l'Opéra Comique, étant très courts, je vous propose d'en écouter deux, quasiment à la suite. C'était très court, donc du coup, un deuxième extrait de Miranda.
Miranda.
Voilà pour ces deux courts extraits, pardon, mais on fait avec ceux qu'on a de Miranda. En ce moment, à l'affiche de l'Opéra Comique, on commence un premier tour de table avec Emmanuel Dupuis.
Oui, on commence par parler de un petit peu de la musique, peut-être faire du projet.
Mais allez, prenez-le par où il bon vous semble.
En fait, bon, il s'agit d'un pasticcio. Le pasticcio, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps dans l'opéra. qui consiste à prendre des extraits de différents ouvrages, et même là, en l'occurrence de différents compositeurs, parce que la plupart des musiques sont de Purcell, mais il y a aussi certains passages que l'on doit à Matthew Locke et Jeremiah Clarke, qui étaient des contemporains de Purcell. Donc, le principe, c'est d'assembler ces extraits pour créer un projet dramaturgique cohérent. Or, c'est là que le bât blesse, peut-être, on en reparlera un peu plus tard, mais pour rester sur la musique, bon, voilà, c'est quand même de la musique sublime. Moi, j'ai trouvé ça sublimement interprété, notamment par l'ensemble Pygmalion, qui est un jeune ensemble, mais qui, en quelques années, s'est hissé parmi vraiment les meilleurs ensembles de musique baroque français, et pas seulement français d'ailleurs. C'est dirigé avec beaucoup de générosité, beaucoup de lyrisme par Raphaël Pichon. Il y a une sonorité vraiment magnifique, ça sonne magnifiquement dans la salle de l'Opéra Comique. La distribution est. Alors bon, hier soir, pour la première, il y avait un petit accident, puisque Henry Waddington, qui chante normalement le rôle de Prospero, était aphone, donc il était doublé. Il mimait son rôle, mais il était doublé par Alain Buet, qui chantait dans la fosse, et qui avait appris le rôle en quelques heures. C'était quand même pas des conditions optimales. Donc du coup, ce sont les deux sopranos, et Kathleen C, qui chante le rôle de Miranda, et Catherine Watson, qui chante le rôle d'Anna, un autre personnage féminin de la pièce, qui dominait le plateau. Sans oublier le jeune Axel Rigvin, qui est un jeune soprano garçon qui, lui, m'a procuré les plus grands frissons de la soirée. C'est une star dans son pays, il est norvégien, je crois, et vraiment, il est merveilleux. Donc, musicalement, c'était assez convaincant, heureusement. Ouais.
Alors, attendez pour la suite, parce qu'on va rester un instant sur la musique. Alors, moi, j'ai assisté à une pré-générale, à cause des horaires de la dispute qui m'ont empêché d'être à la première, évidemment, hier soir. J'ai eu de la chance que moi, Prospero chantait, mais j'ai trouvé, parce que ça chantait vraiment, en tout cas, musicalement, ça somptueux, et puis un très bel équilibre entre la scène et la fosse, qui n'est pas toujours le cas, mais là, il y avait une vraie écoute. On peut parler aussi de l'éruption d'effets sonores, pour amener de l'étrangeté, de l'inquiétude, peut-être un peu naïf, mais on reparlera de cette dimension-là, peut-être dans un instant. Anna Sigalevitch, musicalement.
Musicalement, je partage absolument l'avis d'Emmanuel. C'est vrai que l'orchestre, dès le départ, hein, ça sonne à quelque chose d'extrêmement chatoyant. Les lignes sont très très belles. On sent que c'est une direction qui est vraiment inspirée, que c'est fluide, qu'il y a du moelleux dans l'orchestre. Une vitalité aussi, c'est vraiment très très beau. Le chœur m'a beaucoup plu, notamment le premier, le chœur des fidèles, avec cet air que nos yeux fondent en larmes, qui est de la musique sacrée de Purcell, sur la désolation de Jérémie. C'est vraiment un très très grand moment, et les chœurs qui sont présents tout au long du spectacle sont absolument magnifiques. Et en effet, ces deux jeunes femmes sont aussi très belles, très incarnées. Voilà, Kate Lindsay a un très beau timbre, beaucoup de rondeur, une vraie musicalité. Et Catherine Watson est vraiment excellente. C'est elle qui a, parce qu'il n'y a pas énormément d'airs très connus, il y a un air qui est vraiment connu de The Fairy Queen, qui est Let Me Weep. C'est elle qui l'a, après une sorte de défaillance, elle se relève et elle chante cet air où elle s'adresse. Voilà, là, c'est une sorte de lamento très très beau qu'elle chante bien. Donc musicalement, c'est vrai que c'est absolument convaincant. Mais la musique n'est pas dissociable du reste. Ah et oui. Là où je voudrais, je vais pas parler de, je laisse la parole à Mario, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la musique, à mon sens, pâtit. La force et la beauté de la musique pâtissent de ce qui se passe sur le plateau. Voilà, c'est juste pour.
Je crains que nous ne soyons pas en désaccord les uns et les autres. Musicalement,
alors, Mario musicalement, Drou. Je ne vais pas redire ce qui a été dit parce que c'est absolument une évidence. Par contre, je trouve que malheureusement, la réception qu'on a pu avoir de cette musique, si tant bien faite, comme dirait l'autre, et c'est quelque chose quand même de sujet à caution. Moi, je me suis beaucoup ennuyée dans ce spectacle. Beaucoup, beaucoup ennuyée. Et Dieu sait pourtant si j'aime cette période musicale et si en plus, effectivement, les interprètes étaient tout à fait à la hauteur de leur tâche. Mais je trouve que le propos dramaturgique est absolument au minimum caricatural et au final relativement inconsistant. Parce que effectivement, c'est vu. Alors, c'est un petit peu ce que Katie Mitchell avait fait dans le Péléas, c'est-à-dire l'opéra vu par la femme. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'était Mélisande dans le Péléas et Mélisande. Là, c'est Miranda, donc qui aurait été violé dans son enfance. D'abord, emmené en exil par son père, ensuite violé dans son enfance. Alors on peut imaginer que c'est peut-être la tentative de viol de Caliban, mais on n'en est absolument pas sûr. On peut aussi penser que c'est Prospero lui-même qui a abusé de sa fille. Ça, à la limite, la réponse, moi, je l'ai pas. Et c'est donc cette fameuse Miranda, qui est mariée en plus après très très jeune, donc mère, etc., qui profite d'un simulacre de mort, de sa propre mort, met en scène sa propre mort, pour revenir sous les traits d'une sorte de fantôme, de marié fantôme, on peut penser à une Ophélia quelconque, et qui, à ce moment-là, va déballer devant son père, qui est complètement abasourdi, ben voilà, papa, le mal que tu m'as fait, regarde la douleur que tu m'as infligée, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me demandes pardon ou pas? Bon. Et je trouve que ce propos-là, de cette façon-là, avec cette musique qui dit tellement d'autres choses, qui est tellement plus profonde, qui est tellement plus qui a une dimension mystique. Là, la dimension mystique, elle est complètement passée aux oubliettes. Alors c'est vrai que après il y a des tas d'auto-justifications dans le livret quand on lit. Oui, c'est bien de pouvoir mettre de la musique sacrée sur quelque chose de profane et pouvoir mettre du profane sur du sacré. Bon, je veux bien, mais en l'occurrence on se retrouve devant quelque chose qui est décousu. Il y a aussi des passages théâtraux qui paraissent tout d'un coup d'une violence inouïe. La musique de Purcell, c'est quand même une musique qui reste dans une espèce d'ambitus où tout est en finesse, où on est dans une sorte de mouvance. Il y a beaucoup de choses un peu rêvées, un petit peu fantasmées. Et là, on se retrouve tout d'un coup avec, en gros, ben, passe-moi le sel ou passe-moi le revolver, passe-moi le gun, parce que Miranda se retrouve en situation de braquer son père un certain nombre de fois, sans jamais tirer, évidemment. Enfin, on se retrouve dans une situation, je trouve, franchement, très... Sans grand intérêt.
Ouais, vous disiez inconséquent. Moi, je me demande si c'est même pas un peu irresponsable. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais une fois qu'on a pu regarder ce joli décor d'église contemporaine, très sobre, qu'on a fait entrer le chœur, alors les pauvres vont rester à court pendant les trois quarts du spectacle, complètement statiques, empêchés d'amener quelques tensions dramatiques que ce soit. Mais surtout, puisque vous y faites référence, c'est vrai que Cathy Mitchell... fasse sortir comme ça des armes à feu maniées par les protagonistes. Mais quand même, on n'en peut plus de ces armes sur les plateaux de théâtre et d'opéra. Quand il y a une nécessité, oui, là j'ai vraiment... Je ne sais pas si vous avez senti une nécessité quelque part. C'est gratuit. Enfin, et donc, je trouve que c'est assez irresponsable que de faire ça dans le monde de 2017. C'est quand même un peu grave d'en être réduit à un artifice vraiment malvenu pour moi. Enfin, j'étais assez choqué. Anna Segalevitch.
Oui, alors c'est surtout que, à mon sens, ça ne prend pas. C'est-à-dire que confronter la beauté à la trivialité, la grandeur, pourquoi pas de frotter les choses, voilà, très bien. Mais là, ça fonctionne pas du tout, ça affaiblit la musique. On nous assène des choses dès le départ. Alors on a compris effectivement dès le départ, on nous dit je fus exilé, je fus violé, je fus marié trop jeune. Je vais raconter mon histoire et cette fois il l'écoutera. Ok, mais ça revient en permanence. On comprend immédiatement ce qui va se passer et au bout d'un quart d'heure, il se passe du coup plus rien et en fait ça tourne en rond et on est dans un
quart de spectacle.
Le problème c'est qu'on est dans une sorte de psychodrame. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un drame grand, il n'y a pas de grandeur. On est dans un psychodrame qui, moi, m'a fait penser à quelque chose de l'ordre du feuilleton télévisé. À peu près.
C'est pas gentil pour le feuilleton télévisé.
Et encore, effectivement, il y a certains feuilletons qui sont beaucoup plus fouillés sur le plan psychologique.
C'est psychologisant. Il y a une sorte de pseudo-féminisme revanchard qui me déplaît profondément. Les hommes sont tous
très simplistes.
C'est mono-humeur, mono-ambiance. Il n'y a pas de contrepoint, il n'y a pas de relief. Et donc, du coup, on est dans une sorte de tunnel qui est, à mon sens, atrocement banal.
Oui, et le tout avec une musique sublime, pour autant. Oui, Emmanuel Dupuis.
Oui, non, mais on nous annonçait un spectacle d'après la tempête. Or, en réalité, c'est un spectacle après la tempête et très longtemps après, puisque ce à quoi on assiste, c'est un enterrement chez les petits bourgeois avec effectivement quelques crises de nerfs. Et effectivement, sur le plan de la narration, sur le plan psychologique, il ne se passe pas grand-chose. Alors effectivement, comme dans la tempête, les personnages s'appellent Miranda, Ferdinand, Prospero, mais ils pourraient tout aussi bien s'appeler Angelina, Donald et Michael. Ça serait d'accord. Exactement la même chose, quoi. Et puis effectivement, il y a ce sous-texte féministe appuyé. Miranda a la rage parce qu'elle a été violée, mariée trop jeune. Bon, c'est quand même assez simpliste, même assez caricatural, et je trouve que aussi que même dans la direction, on loue souvent les talents de direction d'acteurs de Cathy Mitchell, mais je trouve que même là, il y avait des choses appuyées et caricaturales, parce qu'on sent qu'elle veut tellement faire rentrer. D'une certaine manière, faire rentrer l'œuf dans la poule, c'est-à-dire faire rentrer son concept dans la musique, dans la narration qu'elle a imaginée, que du coup, pour signifier leurs affects, les personnages ont parfois des attitudes exagérées et à la limite de la caricature.
Mais c'est vrai qu'on en revient à ce que disait Anna Sigalevitch, ça empêche aussi la musicalité de prendre toute la place, parce que quand même, quand on est dans une production comme celle-ci, mais on doit être... Pas à la place des interprètes, mais il y en a peut-être certains qui se sentent en porte-à-faux et un peu empêchés.
Peut-être, mais enfin, on aurait eu une version de concert, on n'aurait pas été volé.
Oui, mais je vais conseiller de l'écouter sur France Musique, ça passe le 15 octobre.
Voilà.
Le bon moment.
Non, puis je trouve qu'il y a une forme quand même d'orgueil, voire de suffisance dans le concept. Quand on peut dire redonner vie aujourd'hui aux musiques de scène que Purcell écrivait pour le théâtre de son temps, j'ai envie de dire, bien sûr, la musique de Purcell, elle est morte, est enterrée. Et moi, je fais revivre la musique de Purcell. Je trouve ça hallucinant de pouvoir sortir des propos comme ça, quand même, si on regarde.
Non, juste pour. Pas pour la sauver, mais pour dire que c'est effectivement, c'est pas une. On ne les entend pas dans les salles de théâtre et dans les salles d'opéra, ces musiques.
On les entend pas souvent, bien sûr.
Donc là, c'est une occasion, et moi, j'y allais vraiment avec grand appétit. C'est peut-être le problème aussi. C'est qu'on est heureux de les entendre, ces musiques, vibrer dans l'espace et dans l'air. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un propos scénique.
Bien sûr, ou pas de propos scénique.
Comme Pierre Bestion, par exemple, où il a son plein de choses, d'ailleurs.
Parce qu'elles peuvent vivre, ces musiques sont tellement géniales qu'elles peuvent vivre de façon indépendante.
J'ai même lu dans le programme, alors peut-être que j'avais fermé les yeux trop longtemps, qu'il y aurait même un masque dans ce spectacle, c'est-à-dire ce moment de la pièce dans la pièce.
Une pantomime, un moment.
Vous l'avez vu?
Oui.
Ah, c'était ça?
Mais ça dure
30 secondes. Et
puis le milieu, à trois quarts d'heure.
Non, parce que ça n'est pas du tout un masque.
Un masque, c'est quand même autre chose.
Non, ils avaient des masques, ça c'est sûr.
Ah oui, d'ailleurs, on pourrait dire à Cathy Mitchell que chanter avec un papier journal devant la figure, c'est peut-être pas génial non plus pour les voix. Ça dure pas trop longtemps, mais enfin, c'est quand même une imbécilité crasse si on veut faire entendre de la musique. Mais le masque, bon, d'accord, c'était ça. Alors, je l'ai pas raté, mais c'était pas ce qui était annoncé, encore une fois. Entre la prétention du projet et puis le résultat, on est quand même, les bras nous entendent. Mais Manuel Dupuis?
Et il y a quelques semaines, à propos de Peter Sellars, on parlait de la dimension rituelle de son théâtre. Et là, effectivement, bon, tout se passe dans une église. Au début, j'ai pensé qu'on allait vers ce type de propos, mais en réalité, non, c'est un rituel totalement vide et pas du tout émouvant, quoi. C'est ça qui est assez étrange.
Et les irruptions sonores dont je parlais
ce sont des bruitages,
on se croirait à la radio, les émissions.
C'est des
bruits de tôle, comme dans la tragédie antique, pour faire le tonnerre ou les éclairs, ou les choses qui vont vous déranger. D'ailleurs, il se passe, c'est simple, ce sont des avertissements à chaque fois, parce que on s'attend tellement, de toute façon, à ce qui va arriver, que même quand ça arrive, on est absolument pas surpris. Ouais. Donc, en plus, c'est préparé. Il y a un personnage qui passe à un moment. Tout ça
De grosses ficelles.
Tout ça est très, très, très surligné.
Anna Sigalevitch, dernier
mot.
Mais
malheureusement, j'ai pas grand-chose. À part le plaisir, effectivement, musical, des chanteurs tout de même, du début. Moi, j'étais curieuse au début, interloquée. Le premier air de Miranda, c'était.
Mais même l'ouverture, je vais vous raconter une histoire, mon histoire.
Allons-y.
C'est ça, au début, c'est quelque chose. Et puis, en fait, non, ça retombe tout de suite.
Pas. Bon. Eh bien, écoutez, il vous reste à écouter France Musique le 15 octobre à 20h. Et puis Miranda sur Arte Concert le 29 septembre à partir de 20h. Cette production dirigée par Raphaël Pichon, mise en scène par Cathy Mitchell, est à voir à l'Opéra Comique jusqu'au 5 octobre. À suivre dans la dispute, Sibelius et Philippe Manoury.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute musicale avec le disque du pianiste norvégien Leif Ove Andsnes qu'il consacre à Sibelius, un disque gravé pour Sony Classical. Sibelius a écrit plus de 150 œuvres pour piano, mais c'est vrai que c'est sa musique orchestrale qui est la plus connue, sauf pour Emmanuel Dupuis, qui connaît son Sibelius sur le bout des doigts. Un disque qui nous propose, alors pour le coup, de remettre plus de lumière sur cette part méconnue de l'œuvre du compositeur finlandais. On va écouter un extrait de ce disque avec une pièce qui s'intitule Kiliki. Kiliki, Sibelius, Anna Segalevitch.
Ah, vous me donnez les paroles, pourtant c'est pas moi la plus grande spécialiste de Sibelius.
On vous a fait un cadeau aujourd'hui, je voudrais savoir si vous pourriez déjà le mettre en pratique.
Écoutez, je ne citerai pas ce cadeau parce que ça me desservirait. Donc je vais d'abord étudier mon cadeau, puis je vous en parlerai peut-être à une prochaine émission.
C'est un cadeau que vous a fait Marie Audreau.
Absolument, c'est un livre, nous n'en dirons pas plus.
Le mystère jusqu'à la prochaine dispute qui vous réunira.
Absolument.
Ça concerne le piano.
Alors, Life of Hanses, moi c'est un pianiste que j'aime vraiment beaucoup, dont j'aime l'élégance, la clarté, la digitalité qui est extrêmement équilibrée. Il y a une fluidité totale dans son jeu. Une vraie passion et aucune emphase. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'équilibre très juste qui n'est pas non plus sur-sophistiqué. Il y a aussi quelque chose de naturel dans tout cet équilibre et dans ce raffinement et cette maîtrise de l'instrument. Voilà, il a enregistré de très beaux Schumann, il a fait pas mal de musique de chambre, il y a les dernières sonates de Schubert qui sont très belles et il a enregistré, un peu dans le même esprit que ce disque, les pièces lyriques de Grieg qui étaient aussi un très beau disque. Alors là, donc pour ce disque, il a épluché tout le répertoire pour piano de Grieg. Il avait déjà joué l'opus. Sibelius, excusez-moi. Il avait déjà joué l'opus 76, une étude opus 76 numéro 2 que j'écoutais de temps en temps. Voilà, il en a pris les œuvres un peu les plus importantes. Hein. Il y a l'impromptu en si mineur, il y a Kiliki, il y a la sonatine, et puis plein de petites miniatures de ci de là. Alors c'est une musique qui est, à mon sens, qui a une vraie joliesse, des passages très beaux, des bijoux. Il y a vraiment des petites choses qui sont des bijoux et des choses qui ont de l'ampleur. La Kiliki, par exemple, c'est vraiment une musique qui a de l'ampleur. L'impromptu aussi, la sonatine aussi. Enfin bon, voilà, il y a de vraies beautés. À mon sens, c'est pas non plus des œuvres qui ont la dimension des grands romantiques. Voilà, on n'est pas chez Schumann, on n'est pas chez Brahms, on n'est pas chez Chopin, non. Mais Quel plaisir, quelle couleur, quelle ambiance, il y a du folklore, il y a plein de choses. Et Life of Hanses donne vraiment toutes leurs lettres de noblesse à ses œuvres. Donc c'est un disque qui est un ravissement à l'écoute. Alors ce Kiliki, ce premier morceau, le premier mouvement qu'on écoutait, Gould l'a joué. Il a joué ça, il a aussi joué la sonatine, donc j'ai écouté. Je connaissais pas, hein, mais j'ai écouté en voyant qu'il l'avait joué. Et je dois dire que Life of Hanses le joue mieux. À mon sens, Kiliki. Parce que Gould, c'est un peu viking, quoi. Il y a un côté un peu binaire, tac, tac, tac. Et Hanses, là, il va dans tous les coins, les contrastes, il raffine, il se promène. Enfin, on sent que c'est un univers qu'il a envie d'explorer. Il y a la notion d'exploration dans sa façon d'interpréter cette musique qui est ravissante.
Marie Audreau.
Écoutez, Anna a tellement bien dit les choses. C'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, j'avoue que Sibelius, c'est pas un compositeur que je connais très bien, en tout cas sur le plan pianistique. Et c'est vrai que je me disais, tiens, finalement, ces grands pianistes, ils sont peut-être obligés d'aller chercher des répertoires un petit peu rares, à force que tous les grands standards aient été surenregistrés. Donc voilà. Mais dans le cas de Hanses, c'est pas du tout ça. On sent que c'est quelqu'un qui vraiment a une démarche de musicien. Alors c'est vrai qu'il y a une part de réhabilitation quand même de la musique de Sibelius, parce que c'est une musique qui a des fausses étiquettes, tout ça, parce que Sibelius aurait dit que le piano ne chantait pas, donc du coup on se dit finalement il sait pas écrire pour le piano, ou il a mal écrit pour le piano parce que c'était un musicien symphonique et que donc, etc., il a pas réussi à concilier les deux. Toujours est-il que Hanses balaie tous ces avis, ces a priori, pour justement montrer ce qui est singulier dans cette musique. Et ce qui est singulier, c'est précisément que c'est une musique qu'on n'arrive pas à définir. On n'arrive pas à savoir où se situe Sibelius. On a l'impression que c'est un immense continent fait de parcelles, celle de milliers d'autres continents. Alors effectivement, parce que par-ci par-là, on entend un petit coup de Schumann, un petit coup de Chopin, du Liszt, la fin de Kiliki.
Ou dans l'impromptu.
Voilà, c'est tout à fait listien. Il peut y avoir aussi, effectivement, l'élément folklorique qui est quand même très très important. Parfois, il y a aussi l'imitation d'instruments traditionnels comme le cantele, qui est un instrument à cordes. Par exemple, je sais que Kaya Sarriao a écrit aussi pour cet instrument et aussi le met dans son orchestre. Donc c'est un
petit peu l'âme. Et Sibelius en jouait.
Voilà, et Sibelius en jouait. Très bien, merci Anna. Mais tout ça pour dire qu'au fur et à mesure qu'on...
Elle a lu Sibelius pour les nuls, là.
Au fur et à mesure qu'on
donnait des indices auquel de Mario, c'est très malarne.
Au fur et à mesure qu'on entre dans l'univers, on est effectivement de plus en plus séduit, même si parfois il y a des côtés, je dirais pas piano bar, faut pas exagérer, mais il y a des côtés très sentimentaux.
Faut pas exagérer, attention.
Il y a des marches harmoniques, on les a
jusqu'au bout. Des résolutions hyper évidentes.
Ah, mais complètement. Ben oui, on imagine ça. Alors, non, je dis piano bar, mais dans un hôtel de grand luxe, avec des gens un petit peu raffinés.
Allez, Emmanuel Dupuis n'y tient plus.
Certaines pièces sont des pièces de salon. Par exemple, la sonatine, on peut dire que c'est une musique un petit peu salonarde, un petit peu mondaine. Mais je trouve que sous cette légèreté, il y a toujours une certaine profondeur. Et puis Sibelius, c'est aussi...
Je n'ai pas dit contraire, Emmanuel. Je parle de nostalgie également.
Voilà, mais enfin, bon, c'est pas du piano bar quand même.
Non, donc, mais piano bar, non, piano...
Et puis Sibelius, c'est aussi le musicien des paysages, et on l'entend là aussi, et notamment dans les cinq esquisses qui referment le disque. La première de ces cinq esquisses, d'ailleurs, s'intitule Paysage, la deuxième Scène d'hiver, la troisième Lac de forêt, etc. Et là, effectivement, c'est tout un continent, tous ces paysages de Finlande qui défilent sous nos yeux, ou comme dans les tableaux de Galen Kallela, et c'est servi effectivement par un immense pianiste. Et alors c'est vrai que Anna l'a rappelé, Gould avait enregistré plusieurs pièces de Sibelius, mais c'est pas ses meilleurs enregistrements.
Pas sa musique, on sent.
Non, parce qu'il y avait une certaine sécheresse, une certaine brutalité dans le jeu de Gould qui ne colle pas du tout à cet univers-là. Et Antnes prend l'exact contre-pied, c'est-à-dire qu'au contraire, lui privilégie le lyrisme, le cantabilé, l'opulence sonore. On a un piano qui sonne magnifiquement, et en plus il y a une très très belle prise de son. Et voilà, et du coup, on découvre des mondes sonores assez fascinants. Alors, c'est une musique qui, dans l'ensemble, à part Sokiliki, justement, qui a une dimension un petit peu symphonique, mais les autres pièces ont une matière sonore très, très différente de la musique symphonique de Sibelius, justement. Hans Ness compare Sibelius, il dit que c'est le Satie nordique, et je trouve qu'il a assez raison, parce qu'il y a une certaine raréfaction du matériau musical par moment qui fait penser un petit peu à Satie. Et ce sont des pièces d'ailleurs d'assez courte dimension, parce que la plus longue, c'est l'impromptu en mi majeur qui dure seulement 6 minutes. Les autres, ce sont souvent des pièces d'une ou deux minutes. Et voilà, ce sont des miniatures, mais qui nous immergent dans un monde sonore. Et pas seulement sonore, parce que c'est très suggestif, très évocateur.
L'amoureux de la Finlande a parlé également.
Et dans les esquisses dont vous parlez précisément, on a presque un autre langage de Sibelius qui, tout d'un coup, enfin, non pas tout d'un coup, mais c'est comme s'il y avait effectivement là peut-être la vérité d'un langage en deux. Je ne dirais pas en devenir pour les siècles futurs, mais il y a quand même quelque chose, notamment sur le plan harmonique, qui est beaucoup plus surprenant, qui est beaucoup plus recherché. Il y a une raréfaction du matériau, effectivement, qui fait penser tout à fait à Satie, mais aussi peut-être à, pas un Liszt dernière manière, j'exagère de dire ça, mais il y a comme si quelque chose vraiment quintessence se dégageait. Pas seulement d'ailleurs dans l'idée des paysages, etc., parce que les paysages, ils sont pas du tout descriptifs. Hein, on n'a pas, on n'imagine pas.
Non,
c'est vraiment évocateur. Ce sont des paysages abstraits. Ouais. Voilà, vous avez parlé de tableaux, c'est tout à fait ça. Ce sont des paysages dans lesquels on peut plonger sa propre imagination. Et c'est vrai qu'il fait ça merveilleusement. Il faut dire que c'est aussi un maître de la couleur hein, dans la façon de travailler les claviers. Et on disait que ce piano n'est pas orchestral. Hans Ness le rend orchestral.
Anna Sekelevitch.
Je suis absolument d'accord. Bon. J'ajouterais aussi peut-être l'Épicéa, qui est, je trouve, un morceau absolument ravissant, qui parle donc de l'arbre, hein, l'Épicéa et l'Héliaco. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Et puis, on se dit, c'est un peu facile. Et en fait, non. C'est vrai que si on y va de plus près, si on écoute attentivement, je m'approche de mon micro. Il y a des surprises aussi. Voilà. Je suis un peu plus réservée sur la valse triste. Voilà. Est-ce que ça avait un sens de mettre la valse triste au programme? Alors certes, c'est le tube, une des œuvres les plus populaires de Sibelius, mais je trouve pas que la transcription pour piano soit très intéressante.
Non, ça apporte rien. Non seulement ça apporte rien, mais ça enlève. Ça enlève.
Dans ce contexte, effectivement, ça apporte.
Voilà, ça c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que en fait, Hans Ness, c'est assez drôle, hein, ce qu'il dit dans le livret. Il est lui-même il n'est pas du tout agiographique. Il dit qu'il adore Sibelius, mais qu'en même temps, il reconnaît très bien qu'il y a des choses qui sont inégales dans sa musique pour piano. Il dit, par exemple, la sonate en fa, ça marche pas, c'est raté. Et puis, il dit que la transcription pour piano de cette valse triste par Sibelius, elle n'était pas très pianistique, donc il s'est permis de l'arranger un peu lui-même. Il l'a aidé un petit peu. Et puis, il dit aussi que Sibelius, d'ailleurs, était très ouvert à ça, parce que ça, il y a une correspondance du début du siècle dernier où on le voit correspondre avec une pianiste qui arrange un peu les choses, pas de problème. Voilà.
Très arrangeant, Sibelius.
Sibelius lui-même ne tenait pas sa musique pour piano en très haute estime, mais il le disait. Il disait que c'était des petites pièces sans grande conséquence, que de toute façon, pour le piano, Chopin et Debussy avaient tout dit, donc que lui n'avait rien à ajouter. Bon, après, c'est vrai, il y a 150 pièces en tout, probablement, et je pense que Antinas a fait un tri très sévère, très sélectif, mais le résultat est quand même plus que remarquable. Oui.
Est-ce que vous savez s'il vient donner quelques concerts sous nos latitudes, Antinas?
Dans l'immédiat.
J'ai cherché, mais je n'ai pas vu ça.
Dans l'immédiat. L'année dernière, il était venu jouer avec Nelson Gurne, Nelson Gurne. Les cycles Schubert, c'était quelque chose aussi. Parce qu'il fait pas mal de musique de chambre, et il fait ça très bien d'ailleurs. Et c'est pas étonnant, au regard de la façon dont il interprète lui quand il est seul au piano.
Il y a
une écoute, il y a des respirations.
Dans notre beau pays, il faudrait bien qu'il vienne jouer du Sibelius.
Bah oui, ce serait bien.
Qu'il le donne aussi en concert. Bon, pour l'heure, on a quand même évidemment ce disque d'œuvre pour piano de Sibelius. Vous dites Life, vous ? C'est comme ça qu'on doit dire ?
Moi, j'ai dit Life Ove Hansnes, mais j'invente complètement, je ne sais pas dire comment on dit. Je dirais Life Ove Hansnes.
On s'en remet à Emmanuel Dupuis.
Je ne parle pas le norvégien.
Ah bon ? Life Ove Hansnes, c'est chez Sony Classical.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième temps de cette dispute consacrée à la musique est une création française après la création mondiale du mois d'août dernier à la Ruhr Triennale. Celle du, alors vous interrogerez là-dessus, du Singspiel en S1, pour acteur, chanteur, musicien et musique électronique en temps réel de Philippe Manoury, d'après un texte de Elfriede Jelinek. L'œuvre s'intitule Kein Licht. C'est une commande de l'Opéra Comique où elle sera jouée du 18 au 22 octobre. Avant cela, c'est à Strasbourg que nos critiques l'ont vue et écoutée. Dans le cadre du festival Musica où elle était donnée, Julien Leroy sur la direction musicale et Nicolas Steinmann la mise en scène.
Thank you.
après des extraits trop courts pour l'opéra comique, là, nous avons un extrait qui pourrait durer longtemps. Hein. L'ouvrage a été diffusé sur France Musique vendredi dernier. Il s'agit donc de Kain Licht, Philippe Manoury. Peut-être commencer par dire que la naissance de ce texte d'Elfriede Jelinek, dont il s'inspire, s'originelle dans la catastrophe de Fukushima, conséquence du tsunami qui a frappé le Japon le 11 mars 2011. Un sujet et un auteur qui promettent beaucoup de noirceur, donc pas beaucoup de lumière, certes. Est-ce le cas, Mario de Roux ?
Alors, de la lumière, il y en a quand même, mais elle est effectivement sous forme de mini-explosion permanente. Non, effectivement, c'est un texte noir, écrit après cette catastrophe de Fukushima, dont on sait qu'elle a évidemment bouleversé, peut-être plus d'ailleurs qu'on ne le croit, sur les fondements de la pensée, de ce que l'homme doit devenir. Et c'est en ce sens que Manoury a eu envie de travailler sur ces textes. Avec ce qu'il a appelé un Singspiel. Alors, le Singspiel, moi j'avoue que j'ai pas très bien compris ce que c'était.
Ah, Sing, c'est
écrit. Ça veut dire penser, voilà, oui, voilà.
Et c'est un jeu de pensée.
Voilà. Alors, vous précisez parce que c'est pas un naufrage.
Non, c'est pas Singspiel, quand même.
Voilà,
non, le Singspiel.
Il faut peut-être dire déjà ce que c'est que le Singspiel. Le Singspiel, c'est une forme de théâtre musical allemand. Mozart en a écrit deux, hein. C'est La Flûte Enchantée et
L'Enlèvement
Sérail. Et c'est, on mêle le théâtre parlé et la musique. Voilà. Donc, Singspiel, ça veut dire on mêlerait le jeu et la pensée. Alors, sous cette forme expérimentale. Alors, Manoury a élaboré le concept. J'avoue que moi, j'ai eu du mal à saisir exactement toute la finesse du propos, parce qu'effectivement, on a quand même quelque chose qui est assez radicalement dit. Hein, c'est-à-dire, voilà, il y a deux comédiens qui sont là du début à la fin, A et B, et qui vont dire ces textes de Jelinek, qui sont d'abord des textes où on ne s'entend plus, on ne s'entend plus être ensemble, on ne s'entend plus penser, on ne s'entend plus au sens propre du terme, parce que effectivement la catastrophe a tout détruit. Ensuite, ces personnages vont peu à peu passer en revue toutes les interrogations sur notre société de consommation, comment se fait-il que va-t-on continuer avec le nucléaire ou pas, et après il y a l'opposition entre les Allemands qui ont choisi de revenir, bon, on le sait, plutôt au charbon, mais qui polluent plus et qui achètent maintenant du nucléaire aux Français. Les Français qui sont plus... Enfin bon, il y a des choses assez amusantes, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, il y a quand même... C'est très noir, mais en même temps, il y a constamment des choses qui débordent et qui prennent les choses par d'autres biais. Et notamment ce chien au début, qui est juste hallucinant, parce que... Alors, je ne suis pas habituellement pour qu'il y ait des animaux sur scène, parce que je trouve que ça capte l'attention.
Sauf quand ils chantent.
Sauf quand ils chantent, parce que là, on a un chien. Alors, la dompteuse, comment on a dit ça,
la dresseuse.
Elle lui fait un petit signe comme ça, comme un tic-tac de l'index, et hop, la queue est exactement en rythme. Ensuite, il se met à ululer en répondant à un solo de trompette à l'autre bout de la scène. Et ce chien est juste hallucinant, parce qu'en plus, on a l'impression qu'il y prend du plaisir. Donc
on le souhaite pour lui.
On le souhaite pour lui. Et c'est vrai que commencer comme ça, ça donne envie. Enfin, j'ai trouvé qu'en tout cas, ce Kain Licht est pas quelque chose de l'ordre de la désolation, c'est pas quelque chose qui désespère, c'est quelque chose qui, même s'il n'y a pas de lumière, il se passe plein de choses dans l'ombre, et peut-être que cette ombre, elle n'est pas définitive. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai vu les choses.
Emmanuel Dupuis, sur le fond de l'œuvre.
Sur le fond, donc effectivement, comme Mario l'a dit, c'est une œuvre assez hybride qui marie le théâtre, la musique instrumentale, la musique électronique aussi beaucoup, parce que c'est une des spécialités de Philippe Manoury, et le chant également. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'action dramatique, puisque les textes d'Elfriede Jelinek sont assez abstraits. Ce sont plutôt des sortes d'incantations qui fonctionnent par libre association d'idées. Et c'est assez abstrait, et c'est même souvent assez obscur. Et quand ce n'est pas obscur, moi je trouvais que le message qui était délivré était parfois quand même un petit peu simpliste. Parce que ça se résume quand même à le nucléaire c'est dangereux, l'homme est asservi par les technologies, le réchauffement climatique c'est pas bien, et Donald Trump est un méchant. Bon, parce que moi j'ai assisté à la création...
Toutes choses avec lesquelles on peut être
relativement
d'accord.
Oui, d'accord, mais enfin c'est quand même assez...
Ou pas.
Bah non, on peut pas être d'accord avec mais ça.
Oui, il y a des gens, oui, effectivement, ou pas, oui.
Phrase.
Donc on a des successions de monologues ou de dialogues qui sont dits essentiellement par ces deux comédiens en allemand. ou bien chantée par quatre solistes. Alors, moi, j'ai assisté à la création à Duisbourg, dans la Ruhr. À ce moment-là, Philippe, je ne sais pas si c'était toujours le cas à Strasbourg, mais à ce moment-là, Philippe Manoury prenait lui-même la parole
deux fois.
À deux reprises. Bon, c'est toujours la même chose. Alors, d'abord, pour expliquer la philosophie du projet, donc il nous dit c'est obscur car la réalité est obscure, avec ça on est bien avancé. Et puis après pour faire un parallèle entre le rôle de la technologie dans nos vies et le rôle de la technologie dans sa musique. Bon, moi j'ai trouvé personnellement ces interventions un petit peu exagérément didactiques. Donc ça n'est pas vraiment du théâtre. C'est la raison pour laquelle on a un spectacle qui au début, pendant les deux premières parties, en tout cas l'œuvre compte trois parties, pendant les deux premières parties, c'est un spectacle que j'ai trouvé assez statique. Il n'y a pas de décor. L'orchestre d'une quinzaine de musiciens.
Bah, si on se trouve quand même dans le bassin de refroidissement d'une centrale nucléaire,
avec des containers, avec de l'eau
contaminée.
Oui, mais enfin, il n'y a pas de décor sur les côtés ni au fond. Je veux dire.
Il y a l'orchestre au fond.
Voilà, l'orchestre est placé au fond et il y a simplement un plateau nu qui, simplement à la fin de la deuxième partie, ce plateau est inondé par un liquide fluo.
Oui, c'est de l'eau contaminée.
Voilà, qu'on imagine radioactif. Et donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'images vidéo qui défilent. Et puis une musique totalement cataclysmique à ce moment-là. Donc, on comprend que c'est la catastrophe qui advient. Donc, et puis à la suite de ça, c'est vrai, dans la dernière partie, il y a une espèce de vent de folie qui s'empare du plateau. Et puis aussi, à la toute fin, une atmosphère de recueillement, une atmosphère de deuil, notamment avec ces bougies qu'on allume. Donc voilà. C'est une impression assez partagée parce que bon, finalement c'est la musique qui m'a le plus intéressé.
Bon, on y reviendra.
Est-ce que je peux juste une petite chose, on a parlé avec Emmanuel de l'œuvre il y a pas très longtemps et visiblement entre ce que lui a vu à Duisbourg et ce que nous avons vu Anna et moi à Strasbourg, il y a déjà une grande différence et je pense que ce qu'on verra à l'Opéra Comique le 18 octobre sera encore différent parce que par exemple il y avait une immense effigie de Donald Trump à Duisbourg en Allemagne. Mm-hmm. Là c'est à peine une vignette qui passe donc déjà le personnage est quasiment happé dans quelque chose qui y avance parce que ce que dit Manoury, c'est que c'est une sorte de, il y a des moments de la musique où les choses évoluent en permanence, ce qui fait que d'ailleurs la durée peut varier d'une certaine façon et je pense que voilà, on est dans quelque chose qui continue à penser, si je puis dire.
Là au moins on comprend du coup le Think Spill. Anna Sikalevitch, qui est pour le réchauffement climatique et qui soutient Donald Trump comme elle l'a annoncé à ce micro il y a quelques instants.
Voilà, tout à fait. Je fais mon coming out trumpien aujourd'hui. Non, mais
c'est votre droit.
C'est mon droit. C'est mon droit. Bon, ce que je veux dire, c'est que je suis complètement d'accord avec Marie-Aude quand elle dit que oui, c'est noir. Mais pour moi, il y a une vitalité dans ce spectacle parce que il y a vraiment un côté là pour le coup laboratoire. Bon, c'est un petit peu banal de dire ça, mais il y a quelque chose de l'ordre du work in progress qui est très agréable parce que ça fourmille tout le temps. Ça fourmille dans l'écriture vocale.
Soupir d'Emmanuel Dupuis.
Ça fourmille dans l'écriture vocale qui passe vraiment, il y a par moments des déferlantes à des tout petits bruissements, des clipotis, de très beaux moments
des
de cuivre.
Je note ce mot.
Clapotis.
Non, mais c'est joli, clipotis aussi, ça sonne bien.
Je pense que ça plairait à Manoury, clipotis.
Oh oui, d'ailleurs, pardon, j'en profite pour dire que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. En disant Nelson Gurneux, c'est évidemment Mathias Gurneux, le chanteur, et Nelson Gurneux, le pianiste, et je parlais de Mathias Gurneux. Voilà, j'ai un petit bug. Bon, revenons
à nos moutons avec nucléaire. Les clipotis,
il y a une matière en tout cas visuelle, sonore et textuelle dans laquelle le spectateur a tout le temps envie de picorer. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais en tout cas, alors, il se passe des choses. Il y a des moments musicalement qui sont très beaux. Les moments de alors, ils appellent la contralto, mais en fait, c'est une mezzo qui chante. C'est pas une contralto.
Oui, c'est une
mezzo.
C'est une mezzo.
Oui. La femme endeuillée comme ça qui intervient avec trois lamentos qui sont très très beaux. J'ai beaucoup aimé le début avec le chien. Alors, on a dû voir forcément des représentations différentes parce que le chien ne doit pas gémir de la même façon à chaque fois.
Il paraît que si.
C'est pas possible. Non, il paraît qu'il a mal chanté à la première.
Il paraît qu'il donne les notes normalement.
En fait, c'est surtout que le jappement du chien est transformé par la musique.
Oui, c'est le principe de Manour, voilà, c'est-à-dire qu'on part de l'acoustique pour aller vers l'électronique.
C'est transformé en temps réel.
Non, bah, s'il a de l'autotune, alors c'est pas drôle.
Voilà. Mais alors. Moi, j'ai adoré la deuxième partie où le chien est entouré par les trois femmes. Mmh. On ne sait pas si c'est les trois dames, justement, du Singspiel de la Reine de la Nuit.
De la Nuit, j'ai pensé aussi.
Ou les trois filles du Rhin.
Ouais.
Voilà, exactement.
Dans l'eau contaminée.
Il y a un truc comme ça.
Ou les sorcières de Macbeth.
Il y a quelque chose de très étrange. Mmh. Et elle se couche comme ça autour de lui. Lui, ouah, ouah, j'ai mis. Elle, ouah, ouah, j'ai mis aussi autour de lui.
Ah, vous faites bien et le chien.
Non, je le fais mal, mais
tout le monde devient chien.
Mais il y a quelque chose vraiment de post-apocalyptique qui est pas mal. Enfin, c'est l'idée de ce spectacle post-dramatique, post-apocalyptique, mais avec un certain humour. Après, et je suis pas d'accord avec vous, Emmanuel, quand vous dites qu'on assène des vérités et des bien-pensances, parce que non, moi je reprocherais peut-être presque le contraire à ce spectacle. C'est-à-dire que tout est exposé, mais tout est contredit tout le temps. C'est-à-dire que Sébastien Balibar contredit le fait qu'il faille arrêter le nucléaire, contredit le fait que Fukushima, ça ait fait un désastre. C'est plutôt... La réalité n'est que contradiction, et de toute façon, nous, à l'intérieur de ça, on ne peut plus savoir quoi penser, donc c'est foutu. C'est plus ça que j'entends qu'une pensée convenue et évidente.
Et Emmanuel Dupuis.
Peut-être, je n'ai peut-être pas tout compris, alors. Non, ceci étant, vous parlez de vitalité, je suis d'accord. Effectivement, il y a une certaine vitalité dans ce spectacle, mais c'est vrai, enfin, moi, ça m'a rappelé un petit peu les utopies musico-théâtrales des années 70. Des années 70.
Ah oui, bien sûr, voilà, le Régie Théâtre.
Mais bon, comme tout ce qui est expérimental, il n'y a pas d'achèvement. Et pour moi, c'est une œuvre qui n'est pas achevée, qui peut évoluer d'ailleurs. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle évolue d'une reprise à l'autre. Alors après, il faut peut-être parler un petit peu de la musique, parce que moi, c'est quand même là.
Il serait temps. Il reste 4 minutes.
La part qui m'a le plus intéressé, et c'est justement la part la plus achevée, la plus aboutie, parce que il y a chez Philippe Manoury un art de l'orchestration qui est d'un raffinement extrême. Il y a toujours des textures très très séduisantes, et puis parfois des ostinatos percussifs très violents, et puis un usage de l'électronique, comme on l'a dit déjà, extrêmement virtuose, qui démultiplie en temps réel les potentialités des instruments, ou qui transforme en musique des sons concrets, comme les petits jappements du petit chien.
Chiki, elle s'appelle la chienne.
Et puis surtout...
Il s'en fiche complètement, Emmanuel.
Philippe,
il a raison. Oui, il veut pas la voir.
Et puis surtout, je préfère les chats et de tout ça. Voilà, et puis surtout, Philippe Manoury, c'est très bien écrire pour les voix, ce qui n'est pas très courant dans la musique contemporaine. Et il ne refuse pas le lyrisme en composant de grands arioso, comme celui qu'on a entendu de la contralto à la fin, avec sa référence malérienne. Et puis parfois des ensembles à la grâce toute madrigalesque, et donc voilà, musicalement c'est une œuvre que j'ai envie de réentendre. Est-ce que j'ai envie de la revoir? Je ne suis pas sûr.
Marie Audreau.
Alors on peut dire quand même que le théâtre a une part hyper importante, et peut-être, je dirais, à la limite trop importante, parce que c'est vrai que la musique est vraiment la partie où toute l'invention de Manoury est présente. Et c'est vrai que c'est un compositeur qui a énormément de sensibilité, de virtuosité. On sait que c'est un grand orchestrateur, c'est vraiment un homme de l'instrumental. Après, je suis d'accord avec Manuel sur le fait que les voix sont traitées de manière un petit peu moins inventive, je dirais, parce que, outre, je ne parle pas de la référence malérienne, évidemment, qui d'ailleurs est surtout textuelle, mais c'est plutôt dans la façon dont la vocalité est exprimée, où là, on a quelque chose qui est un petit peu moins inventif, un petit peu moins visionnaire que dans l'orchestre. Et peut-être, moi, j'aurais envie de le revoir, par contre, mais j'ai envie de voir comment théâtralement ça va aussi, comment les choses vont évoluer, parce que j'ai l'impression qu'on va arriver de plus en plus à une fusion des choses. Là, pour l'instant, on a l'impression que les éléments sont encore disparates, sont encore collés, il y a une forme de collage, mais quand même, on a l'impression que progressivement, si j'entends ce qu'Emmanuel dit sur la représentation du Duisbourg, on a quelque chose qui a commencé à prendre, et peut-être qu'on va finir par arriver
avoir à une forme.
À une forme qui va, voilà, exactement. Merci de...
Non, je suis votre brillant raisonnement et brillante analyse.
Voilà, donc j'ai envie de voir ce que Kein Licht va devenir.
Donc il faut retourner à l'opéra comique pour voir effectivement comment les choses ont évolué.
Un mot encore, Anna Segalevich, alors justement.
Moi, la cohésion, je vous l'avez vu vendredi, c'est ça, Mario?
Oui.
Moi, je l'ai vu dimanche et j'ai senti une cohésion. Donc peut-être que déjà en deux jours, il s'est passé quelque
alors,
chose.
Alors imaginez, c'était le miracle
de Strasbourg.
De Strasbourg.
Non, mais il faut aller à la dernière de l'opéra comique. Non, il y en a quatre ou cinq, donc il ne faut pas les rater d'ici. Là, musicalement, vous n'avez pas beaucoup dit de choses, Anna Segalevich?
Ah, musicalement, mais je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est dit. Mais c'est ce que je disais au départ, enfin, toute cette matière, c'est vrai qu'il y a une matière qui est extrêmement riche, avec de très belles cordes, de très beaux cuivres. Le début, franchement, la trompette avec le chien,
c'est magnifique.
C'est magnifique, l'ostinato final aussi est très très beau. Les trois lamento des lamenti.
Lamenti.
Pardon, je fais des fautes de français.
Lamenti.
Voilà. De cette chanteuse sont absolument splendides. J'ai beaucoup aimé aussi le baryton. Enfin, bon, il se passe des choses. Quoi.
Il se passe des choses avec Kein Licht de Philippe
Manoury.
Et Manoury.
Les comédiens sont juste extraordinaires.
Ah oui, super.
Extraordinaire. Ouais. La performance des comédiens allemands, c'est extraordinaire.
Bah là, du coup, on n'a pas beaucoup parlé de Nicolas Steemann, qui est quand même un très grand metteur en scène et la direction d'acteur à vous entendre.
Ah bah,
elle
oui,
est au rendez-vous, ce qui n'est pas très étonnant. À découvrir pour celles et ceux qui seront à Paris ou qui passeront par Paris à ce moment-là, du 18 au 22 octobre, ce Kein Licht à l'Opéra Comique. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, Grégoire Desfiore nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier au soir, Grégoire.
Quelle pièce de Shakespeare, adaptée par Nathalie Béas, dépeint un roi anglais dont la dépouille a été retrouvée sous un parking il y a quelques années?
Et la réponse était...
Richard III.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour aller voir Démon de Lars Noren dans la mise en scène de Lorraine de Sagazan. Place à gagner pour mercredi 4 octobre. C'est à 19h30 au Théâtre Montfort à Paris. Quelle est la question?
Quelle pièce de Lars Noren mit en scène des prisonniers qui profitèrent de leur permission pour commettre des braquages?
Si vous avez la réponse à la question posée par Grégoire Desfiore, écrivez-nous, avec vos coordonnées postales aussi, et la réponse à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter les émissions et vous abonner surtout au podcast de la dispute. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Corinne Rondeau, Yasmine Yossier et Elisabeth Franck-Dumas. Notre affiche, l'exposition Irving Penn au Grand Palais, la carte blanche PMU d'Elina Broterus au Centre Pompidou, une exposition Giorgio Morandi à la galerie Karstengreve.